tous les jours, on les retrouve de partout, alors en pied, en voiture, à moitié, enfin non pas à moitié, totalement, comment est-ce qu'on peut dire, quand on n'est plus dans son état normal, quoi, avec les drogues qui circulent, on en voit qui sont tout nus, enfin bon, c'est quelque chose d'affreux.
Salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2, c'est la voix du mag qui commence. Aujourd'hui, on vous propose une émission consacrée à la répression de la scène techno en France. Une lutte qui continue pour défendre la liberté de se rassembler, de résister à l'emprise croissante de l'État sur les formes de fêtes et d'expression qui sortent des cadres établis. Quels enjeux politiques et sociaux sous-tendent cette répression ? Eh bien, pour nous en parler, je reçois Kevin du collectif Techno Anti-Répression. Bonjour Kevin.
Et bonjour à tous.
Et je serai exceptionnellement assisté pour cette émission de Asia. Bonjour Asia.
Bonjour. Alors Kevin, peux-tu te présenter brièvement et nous parler de ton engagement dans la culture techno ?
Oui, bah, du coup, je m'appelle Kevin, ça fait donc une dizaine d'années que je suis donc dans le mouvement techno, que j'en écoute à la base, que j'en suis devenu acteur petit par petit. Aujourd'hui, mon engagement, c'est continuer à faire vivre cette fête libre, donc au travers la manifestive, essayer d'avoir donc, des rendez-vous avec des élus, et essayer de parler de tout ça pour continuer à vivre comme on le fait.
On va repartir à la base, à la genèse. Je voulais savoir si tu pouvais nous définir ce qu'était la culture techno ou free party. Déjà, est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est de perceptions différentes de ce mouvement ?
Oui, oui. Du coup, donc, ouais, effectivement, là, j'irais plus culture free que culture techno. Ouais, okay. Parce qu'il y a quand même une techno vachement mainstream et une autre techno beaucoup plus underground. Donc plutôt de la culture free, et la culture free c'est vraiment un espace de liberté en fait, où il n'y a aucun préjugé, aucun a priori, tout le monde a le droit d'être ce qu'il est, ce qu'il veut, et faire un petit peu, chacun sa mentalité, on accepte tout le monde quoi. Donc on est vraiment un espace de liberté où tout art est à sa place, toute personne à sa place aussi, toute mentalité, y a, à partir du moment où l'être humain, il y a du respect, il y a tout ça, nous sommes tous d'accord et tous au même endroit, quoi.
Sur l'idée de liberté, parce que c'est quelque chose qui revient hyper souvent, hein, même dans vos communiqués, c'est le premier truc que tu as dit là, par exemple. Et je voulais savoir pourquoi vous affichiez pas peut-être plus clairement des positionnements, tu vois, je dirais antiracistes ou antifascistes. Je voulais savoir si, pour toi, c'était parce que c'était intrinsèquement lié à ce mouvement, que c'était quelque chose qui allait de soi et qu'il n'y avait pas besoin, par exemple, de le formuler, de le notifier. Mais pourquoi résumer tout, tu vois, avec cette notion de liberté ?
Mais aujourd'hui, entre que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans la rue, que ce soit au niveau personnel, on est tous un petit peu mains liées par rapport à chacune des mentalités, de ce qu'on peut... de ce qu'on fait ressentir, de ce qu'on dégage de nous-mêmes à l'extérieur. Et dans la culture free, justement, quand on parle de liberté, c'est qu'on est libre d'être soi-même. On n'a pas à se freiner sur notre mentalité, sur ce qu'on est, en fait. On n'a pas besoin de donner une image de nous, on est vraiment ce qu'on est.
Alors, tu parles toujours d'être qui on est. Si on reprend un peu la base, les origines de cette culture des free parties, ça vient plutôt d'Angleterre, je dirais. En tout cas, moi, ça m'évoque ouais, spontanément un peu ces mouvements. Donc, c'est un peu peut-être les années 90, Thatcher.
93, exactement, je crois.
Ah ouais, d'accord. Okay.
La première free party en France est arrivée en 93 avec les Spiral Tribe. C'était à Beauvais, je crois, qu'ils ont fait leur premier Technival. Et ensuite, en 94, donc, est tombée la loi... en Angleterre, et si je me trompe pas, c'est interdiction de plus de 20 personnes avec de la musique répétitive.
Ah, ils ont fait fort, 20 personnes, c'est la jauge était plutôt basse alors. Ouais. Enfin, c'est vrai que moi, dans mon imaginaire, je l'associe évidemment aux Travelers, le mouvement vraiment d'itinérance de toute façon, même au squat, voire au mouvement punk.
Ça s'y approche beaucoup, ouais. Effectivement, c'est qu'on est beaucoup dans le travelling, on ne vit jamais au même endroit en fait, on est toujours en déplacement, on aime se déplacer à droite et à gauche, et vraiment du coup on partage donc notre musique en faisant ça en fait, on se balade toujours avec nos enceintes, et du coup on se met à droite à gauche, on rencontre des personnes aux quatre coins de l'Europe, et puis on se rapproche grâce à ça en fait.
Dans les années 90, il y avait vraiment l'éthique do it yourself, le côté partage de matériel, c'était aussi d'être un peu en marge volontairement. Il y avait un truc de clandestinité aussi, quelque chose de très très identitaire et de festif. Pour moi, les bases de ce mouvement sont quand même très politiques, quoi.
Alors de base, ce mouvement se veut apolitique, mais ça fait quand même un paquet d'années qu'on faut arrêter de se leurrer. Et, effectivement, il y a un aspect très politique derrière.
On est sur quelque chose quand même de un peu de sauvage, quoi. C'est un positionnement par rapport à un rejet aussi que tu veux notifier à travers la fête, quoi.
Oui, effectivement, mais toute notre vie, quand on est traveleur, justement, je vis moi-même en camion. Donc, en me déplaçant à droite et à gauche, que ce soit donc la population locale ou les autorités, je me fais souvent rejeter des endroits où je me gare, alors que je ne gêne pas spécialement, j'y passe juste la nuit pour repartir. Et c'est vrai que quand on crée ces espaces de convivialité tous ensemble, ça me permet de me dire, je suis pas seul en fait. Je suis pas seul et on peut avancer tous ensemble et essayer de trouver comment on peut vivre avec tout le monde, mais à notre façon, quoi.
Par rapport à la répression aussi, et les implications et les conséquences, genre les saisies par exemple de matériel, des camions, l'implication directe, c'est aussi les camions, ce sont des lieux de vie. Ça veut dire que t'impactes directement la vie des gens, c'est pas juste du matériel pour s'amuser, quoi.
Exactement, il y a déjà eu des saisies l'année dernière ou il y a deux ans, je sais plus, il y a eu justement un véhicule aménagé. La personne vivait dedans à 100% toute l'année. Il y avait donc du matériel de sonorisation intérieure. Ils lui ont saisi donc sa maison, quoi. Pendant 6 mois, il n'avait pas de maison.
La culture free, c'est une culture, mais pour certains, certaines, c'est un choix de vie, quoi.
Ah oui, on vit à travers ça. Oui, on pense par ça, on vit à travers ça. C'est pour ça qu'on se considère comme une culture et pas un simple mouvement, en fait.
Est-ce que ça reste un choix, un peu hédoniste, une posture nihiliste? Est-ce que ça appartient toujours à chacun, chacune, ou il y a une espèce de tendance qui va se dégager sur la culture de maintenant?
Alors c'est vrai qu'on a quand même une certaine généralité où on est quand même vachement anti-système. Ça c'est assez global, mais c'est pas un anti-système, on veut vivre sans, on veut être totalement à part. On est vraiment contre le système actuel et on essaye d'avancer, d'essayer de trouver un nouveau monde, quoi, en fait. Essayer d'avancer tous ensemble, avoir quelque chose de plus raisonnable, d'être plus attentif et d'être plus compréhensif de chacun. Au lieu de faire une répression sur le moindre mouvement qui n'est pas d'accord avec la politique actuelle, essayer de trouver un système qui va justement être compréhensif et trouver les moyens de que chacun puisse vivre à sa façon, mais tous ensemble, avec le respect de chacun.
Le trait commun entre tous les gens investis dans ce mouvement, est-ce que ça peut être, le rapport à la classe sociale, où ça, c'est moins présent que ça a pu l'être dans les années 90, par exemple?
C'est vrai qu'avant c'était plus une classe sociale assez pauvre quand même. Là aujourd'hui c'est vraiment un choix de vie. Aujourd'hui j'en connais qui sont quand même très aisés et qui ont mis donc vraiment un énorme investissement dans leur véhicule aménagé. C'est vraiment un choix de vie, un style de vie qu'on choisit et pas par dépit. Vraiment par choix.
Je sais pas si t'as vraiment répondu tout à l'heure sur les positionnements idéologiques. Ça, tu disais qu'effectivement c'était un espace d'accueil, quoi, être bienvenu. Mais pourquoi il n'y a pas de positionnement plus clair, tu sais, par rapport à l'antifascisme par exemple?
C'est vrai que pour moi ce n'est pas, là c'est vraiment personnel, ce n'est pas un questionnement que je me pose. C'est vrai que c'est inné presque, en fait. On est clairement antifasciste. Après c'est peut-être pas le cas de tout le monde, j'en connais qui sont pas spécialement antifascistes non plus, mais c'est vrai que ça reste pour moi inné dans ce style de vie qu'on accepte tout le monde, vu qu'on accepte vraiment tout le monde. Le fascisme reste quand même quelque chose qui n'accepte pas tout le monde, quoi, justement. Donc du coup ça, c'est clairement le contraire de ce qu'on pense, quoi.
Et selon toi, qu'est-ce qui va distinguer la culture techno et les free parties des autres formes de rassemblements musicaux ou festifs?
Ça va être donc le côté déjà un peu légal, on va dire. Il y a toute une structure. Il y a aussi donc la culture techno qui est aujourd'hui présente dans beaucoup de villes. Elle est, comment dire, vachement monétisée. C'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir, même si ça reste vraiment la même musique. On a vraiment des mentalités différentes, quoi. Ça va être des endroits restreints où on n'accepte pas spécialement tout ce qu'on peut accepter, nous, en free.
D'ailleurs, toi, t'es DJ aussi, perso.
Je suis DJ aussi, personnellement, ouais.
Tu crées aussi des univers sonores et techno. C'est pas juste passer des vinyles ou je sais pas quoi.
Ah non, oui, clairement. Il y a toute une réflexion derrière. Il y a toute une histoire, en fait. Un set DJ, c'est une histoire. On emmène la personne de A à Z. C'est comme un livre. Un livre, quand on lit un roman, si tu écris l'introduction, que ça intrigue, mais qu'au milieu, tu perds la personne va pas finir le livre. Donc là, le set, c'est pareil, il y a une histoire de début qui va jusqu'à la fin et l'objectif, c'est d'emmener en voyage durant tout ton set. Je m'adapte souvent. Okay. On ne peut pas faire un truc prédéfini. Toutes les personnes sont différentes, on a une perception différente. Donc une seule et même musique, il va y avoir un sample, donc un petit bruitage quelque part. Tout le monde va entendre ce bruitage et c'est ça qui va emmener les gens, mais tout le monde va le percevoir différemment. Et il y en a qui vont le voir comme quelque chose de festif, d'autres un peu plus dark, d'autres ça va être une... Chacun le voit comme il veut. Donc du coup, c'est intéressant de s'adapter. Ton propre set, tu l'adaptes vraiment par rapport à tout le monde.
Et donc tu l'adaptes, ça veut dire qu'il n'est pas prédéfini. C'est-à-dire que tu peux d'un coup décider de rajouter un morceau, toi un titre que tu ne pensais pas passer. Et tu dis l'ambiance là, maintenant va l'imposer.
Ouais, moi je suis comme ça personnellement. Okay. Je sais que voilà, je vais changer de track par rapport à l'ambiance et le public que je vais avoir devant moi, ouais.
Mais je suis en train de me dire, c'est aussi une culture, parce que tu dois avoir cette culture, tu dois avoir en tête des morceaux, en te disant, vas-y, ce morceau correspond à ce mood, ça veut dire qu'il faut que t'en écoutes, ça veut dire qu'il faut que t'aies un bagage culturel par rapport à ça, clair quoi.
Ah oui, j'en écoute toute la journée. Toute la journée, du matin au soir, j'ai les écouteurs ou une enceinte qui tourne et j'écoute.
Et c'est ça le propre d'une culture. C'est aussi d'avoir une histoire. Enfin, je veux dire, quand on dit oui. Que c'est pas de la musique, en tout cas, c'est une culture. Puisque toi, t'archives dans un coin de ta tête des morceaux par style, catégorie et différence.
C'est ça. Ouais. Certains disent que c'est du boom-boom. Finalement, il y a tout un monde, quoi. Ils sont tous différents.
Donc, dans le boom-boom, il y a plusieurs types de boom-boom, quoi.
Ah oui, exactement, oui. Fatotise, si je me trompe pas, on parle plutôt acide... Techno acide avec un K ou Tribe, même je sais plus exactement ce qu'il envoie.
Oh pétard, là on te laisse la responsabilité. Moi je vois pas du tout ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? C'est un style musical?
C'est un style musical, oui. Alors, l'acide, ça sort donc d'une ancienne machine qui s'appelle la Roland TB303.
Ouais, bien sûr. Donc, ou 304 assez... parfois, non.
Non, c'est que la 303, l'acide, c'est vraiment la sonorité qui ressort, quoi. Et c'est de ça que la base de la musique acide.
Bah écoute, on écoute la TB303 et pas 304, hein, parce que sinon
c'est pas la même.
C'est pas la même. We'll be right back. Le retour sur les ondes de Canal Sud 92.2 avec Kevin du collectif Techno Anti-Rap.
Bah, là, donc Fat Otis, on partirait sur un style un peu... Alors, je vais parler de style général, hein, parce que comme tous les styles, il y a des sous-genres, et alors là, c'est à s'y perdre. Mais là, bon, on va partir... Là, c'est Fat Otis, donc ce qu'on entend, on part plus sur une tribe, donc qui se joue c'est entre 160 et 170 BPM. Ça va être des trucs assez rapides, des kickbass assez profonds. On va rester dans quelque chose d'assez grave. Bon, ensuite, il y a plein d'autres styles, quoi. Donc, il y a aussi le hardcore, donc il va être beaucoup plus haut, ça à 180-190 BPM, voire beaucoup plus. Ça va être des kicks beaucoup plus saturés, qui vont partir sur l'aigu, donc ça c'est vachement plus vénère. Petite dédicace au Nord, qui aime beaucoup ça.
Le Nord et le hardcore.
Bah, c'est ça, ils aiment
évidemment.
Beaucoup. Et oui, après il y a des genres, donc le techno avec un K. Donc comme pour Techno Anti-Rap, comme on s'est noté, là on part sur un style plus 140-150 BPM, c'est un peu plus bas, ça va être pareil, des kicks bien graves, bien... des bulles. Je vais appeler ça comme ça, c'est comme des bulles, c'est bien étalé comme kick, c'est sympa. Et après, ben voilà, il y a tout ce qui est trans, électro, techno CH, minimal, qui sont des styles déjà un peu plus connus du grand public. Il y a aussi un style underground en free de tout ça.
Comment on le perçoit ? C'est le cerveau qui analyse, c'est le cœur, c'est-à-dire quand on parle de BPM, c'est quoi le côté organique de la perception par rapport à la musique ?
C'est très compliqué à expliquer, c'est très bonne question, très compliqué à expliquer. Donc le BPM c'est le battement par minute, hein, donc c'est dû par rapport au cœur. Ensuite la perception va être... ça va être vachement rythmé sur les basses, quoi, en fait, le kick bass, donc il y a un kick qui va être un peu comme métronome, donc il va toujours être calé sur un même temps. Et ça va être vraiment donc la saturation et l'ondulation que tu vas lui donner à ce kick, ainsi que la basse qui va suivre. La basse qui va suivre, elle va être redondante, elle va être des fois toujours pareille, elle va pouvoir être en longueur, elle va être sec, enfin c'est... Il y a vraiment beaucoup...
Et quand t'es là pour danser, puisqu'il y a plein de styles, il y a une danse qui correspond entre guillemets à un style, ou alors comme on est dans un truc très libre, il n'y a pas véritablement de règles, chacun perçoit la musique comme il l'entend.
Ah oui, il n'y a pas de règles, ouais. Y a le mouvement qui revient souvent, c'est avec le pied quand même, donc danser avec le pied, ce qu'on dit des fois en free, taper du pied. Okay. Voilà, il y a souvent ce mouvement qui revient souvent, mais après derrière, y a, chacun est libre, quoi. Il y en a qui veut tourner sur lui-même, qui veut sauter partout, qui... voilà, chacun est libre, ouais. Chacun interprète à sa façon au niveau de la danse.
Et est-ce qu'on danse pour soi ou on arrive aussi à rentrer en communication avec les autres, parce qu'on peut aussi un peu déambuler, on peut aussi choper le regard des autres, ou c'est ce truc juste d'être face au mur d'enceinte, d'être kéblo, tout ça, quoi.
Non, justement, ouais, on est beaucoup à pas se retrouver, à être toujours en face de l'enceinte, de ce mur d'enceinte, justement. On aime bien tourner, genre, comme tu dis, le regard des autres, avoir le regard et ce petit sourire, et danser ensemble et faire les mêmes mouvements, des fois, ça... C'est vraiment c'est super sympa.
Parce que ce dont on est en train de parler, alors qu'on va là parler d'arsenal de répression, on parle bien de fête, t'es d'accord avec moi, là on parle de danse et de personnes plutôt joyeuses, quoi.
Bah oui, on parle de sourire, de musique, peut-être un peu trop amplifié pour, pour l'État, mais non, oui, on parle de tout ça.
Vive la liberté, vive la liberté, et que la tête nous résonne !
Des murs de son, en plein centre-ville. Environ 1500 personnes vibrent au rythme de la techno. Toutes réclament le droit de faire la fête, librement.
Ça fait 10 ans que je fais la free party, plus ou moins. J'ai un centre système, qu'on crée des événements, et que je vois que ça part de plus en plus en mode répression à bloc. On se fait taper dessus, on se fait gazer pour rien. On est juste là, principalement, pour faire de la musique.
Mi-mars, une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée, visant à renforcer la pénalisation des free parties. Jusqu'à 6 mois de prison et 5000 euros d'amende pour les organisateurs, ainsi que la confiscation systématique du matériel.
Pour moi, c'est des lois qui sont liberticides.
Aujourd'hui, si on se mobilise partout en France, c'est pour des mesures prises qui sont de pied en pied, avec notamment un arrêté dans l'Hérault qui est sorti cette année, un arrêté d'un an. Donc à partir d'un an, c'est même plus un arrêté, on appelle ça une loi. Des violences, des amendes, des pluies d'amendes, des pluies d'arrêtés préfectoraux qui font que tomber depuis maintenant trop de temps. C'est toute une culture qui est maintenant discriminée, c'est toute une culture qui subit depuis tant d'années.
Argument avancé par l'État pour interdire les free parties, risque de troubles à l'ordre public et risque sanitaire.
Alors, ça fait plus de 30 ans que les free parties existent maintenant en France. Est-ce que tu peux revenir sur l'historique de la répression et comment elle a évolué au fil des années et pourquoi elle s'est intensifiée ?
Alors là, moi, j'ai un truc. Le Code de la sécurité intérieure permet aux autorités de prendre des mesures pour interdire les rassemblements publics susceptibles de perturber l'ordre public, comme dit Pasqua. Cela comprend les rave parties. Alors déjà, c'était déjà nommé rave party. Et les festivals non autorisés, surtout si ces événements ont lieu dans des lieux publics ou privés sans les autorisations nécessaires. Ça permet, en tout cas, je trouve, de bien comprendre ce qu'on va reprocher. Là, au niveau des autorisations, ça va être un biais d'attaque, un angle d'attaque contre ces formes de fêtes. Les autorisations, là, c'est clairement dit.
Ça, c'est le début de ce qu'on a aujourd'hui avec les lois qui leur permettent donc de tout bloquer, de saisir. Ça, c'est un peu le début, quoi, du coup.
Alors que c'est des épiphénomènes, là.
Ah, c'est tout nouveau.
94,
c'est tout nouveau, ouais, ça vient à peine d'arriver, effectivement, ouais.
Et c'est déjà perçu comme une menace, un danger par les autorités.
Parce qu'il y a déjà eu un premier Technival, donc en 93, effectivement, à Beauvais, si je ne me trompe pas.
1993, Beauvais, nord de la France. L'histoire de la free party en France s'apprête à changer à jamais. En plein été, une poignée d'anglais débarque avec un son nouveau, Spiral Tribe. Ces activistes de la scène rave londonienne fuient la répression policière au Royaume-Uni et trouvent refuge ici, sur un terrain vague près de Beauvais. Pas d'affiches, pas de réseaux sociaux, juste le bouche à oreille et quelques flyers bricolés. Pourtant, plusieurs centaines de passionnés répondent à l'appel. Sound systems artisanaux, caissons empilés, générateurs bricolés. La fête prend vie sans aucune autorisation. Les basses cognent, la techno tribale résonne dans la nuit et l'esprit libertaire s'installe. Ce sera le tout premier Technival français. Entre improvisation et débrouille, la rave durera plusieurs jours. Une expérience brute, hors du temps, marquant les débuts de la culture free party en France. Beauvais 1993 est plus qu'une soirée, c'est l'acte fondateur d'un mouvement qui résonne encore aujourd'hui sur les terrains de nos campagnes.
Parce que ce qui fait peur, c'est quoi? La jeunesse, le nombre et la jeunesse. Juste la jeunesse représente une menace quoi, pour toute forme de pouvoir, j'ai l'impression.
Mais j'avoue que j'ai quand même du mal à comprendre qu'est-ce qu'on représente pour eux. Enfin, qu'est-ce qui les motive à nous dénigrer comme ça, j'ai beaucoup de mal à comprendre.
Peut-être que le bonheur, au bout d'un moment, est suspect. Parce qu'ils se disent du bonheur peut venir peut-être une forme de contestation. Et de la contestation, une forme de rébellion, de révolte. Et qu'il faut tout de suite cadrer ça.
Je dirais qu'ils aiment bien avoir la mainmise sur un peu tout. Donc je pense que vu qu'ils n'ont pas la mainmise sur sur nos soirées, c'est sûrement ça. Et après, quand je parle de mainmise, je ne parle pas spécialement de financier, mais vraiment au niveau de la globalité, de pouvoir faire la mise en sécurité, d'avoir toujours besoin de surveillance à droite et à gauche. Je pense que ça doit être ça. Ouais.
Surveillance, voilà. Parce que là, on est sur des articles de la sécurité intérieure. Enfin, ça rigole pas. C'est les gens que ça a mobilisés, c'est pas les PTT, quoi. C'est des gens en charge de la sécurité. Donc, des gens armés, expérimentés, entraînés. Le rapport de force va tourner vers la criminalisation. C'est-à-dire, vous serez perçus non plus comme des gens qui font la fête, mais clairement comme limite des menaces et on va le voir parce que cette histoire-là est marquée par des drames aussi quoi. Là j'ai un article que tu dois sûrement connaître, le L211-1 du Code de la sécurité intérieure, qu'autorise l'intervention des forces de l'ordre en cas de regroupement illégal pour disperser les participants et saisir du matériel. La privation du matériel va être aussi un peu le nerf de la guerre, j'ai l'impression. Quoi.
Depuis de nombreuses années, effectivement, c'est un peu le nerf de la guerre, surtout que beaucoup de sound systems, c'est vraiment récurrent, on a des associations. Donc pour faire du légal justement et donc la privation de ce matériel à chaque fois qu'on se fait saisir ça nous empêche de faire vivre nos associations événementielles pendant 6 mois, 1 an ou voire pendant des années parce que du coup ils nous ont détruit le matériel quoi. Donc ça c'est vraiment un peu la base de notre contestation un petit peu, c'est vraiment la saisie de ce matériel.
Et quand tu dis destruction, c'est une vraie destruction, c'est une image tu veux dire?
Ah non,
parce qu'il y a saisie ou vraiment ils pète vraiment, je sais pas.
Ah non, c'est une destruction. C'est comme, par exemple, si sur un trafic de drogue, ils vont donc trouver, ils vont le détruire, donc ils vont le brûler. Ben là, c'est pareil. Ça, mais sauf que c'est la sonorisation.
Dès vendredi minuit, un millier de teufeurs convergent vers un champ à proximité de la ville. Très vite, les forces de l'ordre tentent de les disperser. S'ensuit une nuit d'affrontement. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a eu la main arrachée. Mais à 17h, les forces de l'ordre mettent fin à la fête de manière radicale.
Ils ont trouvé la meilleure idée que de tout casser, platine, ampli, caisson, voilà, tout détruire sur la quasi-totalité des sons et repartir comme ils étaient venus, voilà, et détruire tout le matériel des gens, voilà, pour que mettre fin à la... À ce beau week-end.
Six personnes ont été placées en garde à vue à l'issue de ce week-end. Trois d'entre elles ont été déférées devant le parquet de Rennes. Toutes ont été convoquées devant le tribunal correctionnel pour violence sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Du côté des organisateurs de la rave party, les dégâts matériels sont estimés à 100 000 euros. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a eu la main arrachée.
Bon, il s'est arrivé une fois où ils l'ont fait sur place, hein, on me rappelle de Redon, qui a été un épisode assez incroyable où on a vu donc les CRS arriver avec des haches et des battes de baseball, fracasser tout le matériel, que ce soit le matériel DJ, que ce soit de la sonorisation, que ce soit des amplis. Ils ont vraiment tout fracassé ce jour-là.
Sur la saisie du matériel, c'est vraiment encadré.
Alors il y a des saisies administratives qui sont donc jusqu'à 6 mois. Là, c'est celle qu'ils utilisent le plus souvent d'ailleurs parce qu'ils utilisent celle-là et encore elles sont illégales parce que quand un rassemblement fait moins de 500 personnes, on n'a pas besoin de le déclarer en amont. Et ils saisissent quand même la plupart du temps donc, quand il y a moins de 500 personnes. Donc c'est une saisie administrative, le matériel sera récupéré au bout de 6 mois, mais c'est leur petit outil pour nous saisir et nous empêcher d'avoir le matériel sur nous pendant un moment. Quoi.
Et ils se disent que pendant 6 mois au moins, ils sont débarrassés du problème. Et puis ça crée des coûts aussi financiers, comme tu disais, ça met à mal des associations. Enfin, c'est une pression, mais liée clairement... qui sous-tend une idéologie, quoi.
C'est ça, mais en fait, ce que je ne comprends pas en plus, c'est que même eux, finalement, le ministère de l'Intérieur utilise énormément d'argent pour toutes ces procédures, pour tous ces contrôles, pour finalement pas grand-chose, parce que le matériel, on va le récupérer. Donc c'est vraiment incompréhensible. Des fois, quand on va dans une free, bon, il y a beaucoup de monde, mais qu'on voit les hélicoptères tourner toute la journée, qu'on voit 100, 150 gendarmes déployés tout autour du site pendant 2 jours... Ben finalement c'est un coût énorme pour pas grand chose en fait.
Mais je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas juste de la communication? Ça fait partie de la guerre entre guillemets, c'est-à-dire il faut communiquer, il faut qu'au JT ou dans les journaux on puisse voir un hélicoptère, ça veut juste dire genre on s'occupe du problème, même si c'est pas vrai, l'idée c'est de faire de la com quoi, de la propagande quoi.
Ouais, c'est fort probable que ce soit ça, oui, on s'occupe du problème, mais finalement vous avez quand même pas fait grand chose quoi, à part être tourné autour et dépenser de l'argent, vous avez rien fait donc.
Les hélicoptères dans le cadre de manif, voilà, c'est stratégie aussi. Voilà, le bruit perturbe, ça crée une peur aussi, hein, un climat de psychose. Si ça peut empêcher des gens de revenir en manif, des interventions plutôt brutales de la police, peut-être que ça peut dissuader aussi des gens qui sont simplement venus faire la fête, qui voudront peut-être pas forcément revenir, tu vois, une prochaine fois.
Bah, malheureusement, ça nous arrête pas.
Ça nous arrête pas parce que, quoi.
Justement, en fait, on aime ça, on aime ce qu'on fait, on est vraiment justement tous ensemble. C'est une passion, en fait. C'est vraiment une passion, donc c'est pas simplement une contestation qu'on va étouffer comme ça. Là, on est des milliers, des dizaines de milliers de passionnés. Et une passion, tu ne l'arrêtes pas comme ça.